les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2003, Les Chemins de la musique consacraient une série de 5 émissions à la place de la musique dans le soufisme. Le deuxième volet de la série s'intéressait plus particulièrement au rôle des sons et des voix dans les rituels soufistes, en se référant notamment à la pensée du grand maître de la spiritualité islamique, Ibn Arabi. Pour nous éclairer sur la dimension supérieure et spirituelle qu'accorde aux sons et aux voix le soufisme dans la relation à la parole divine, Daniela Langer interrogeait l'ethnomusicologue Jean During, l'islamologue Pierre Laurie et la psychanalyste Ouria Abdelwahed. Les chemins de la musique, musique et soufisme, deuxième émission d'une série de 5, des sons et des voix dans la quête de l'absolu. Première diffusion le 11 mars 2003.
Les chemins de la musique, cette semaine par Daniela Langer. La musique et le soufisme.
Les soufis ont une formule tout à fait exceptionnelle, je dirais, pour montrer qu'il faut étudier ce système de l'intérieur et pas dans des livres. Ils disent « il vaut mieux blanchir son âme que noircir le papier ».
Aujourd'hui, des sons et des voix dans la quête de l'absolu. Le XXe siècle, on le sait, a été peu propice à la méditation, à la contemplation, peu favorable à la spiritualité en général, et encore moins à une recherche mystique de sources véritables, de vérités premières. Aujourd'hui, près de 14 siècles après la révélation de l'islam par le prophète Mohammed et l'apparition presque simultanée en Irak et en Perse du phénomène soufi, la spiritualité mystique musulmane semble vivre des heures plus que difficiles. Confrontée à des climats politiques peu enclins, sinon ouvertement hostiles, à la poursuite de son étude et de ses pratiques, cette tradition spirituelle soufie, en tout cas aux yeux de beaucoup, semble acculée à se vider peu à peu de son contenu, à abandonner ses fondements et sa vocation véritable au profit du maintien des formes et des apparences seules, souvent spectaculaires d'ailleurs, et par conséquent aussi de plus en plus souvent mises en spectacle. Mais derrière, au fond, à la racine cachée, historique et spirituelle de ce soufisme qui aujourd'hui semble être réduit à s'exhiber, qu'y a-t-il ? Quelles aspirations, quels enseignements, quelles idées l'ont fait naître et l'ont nourri à travers les siècles ? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 3 grands connaisseurs de la mystique musulmane, Ouria Abdelwahed, psychologue, Pierre Laurie, anthropologue, et Jean During, ethnomusicologue.
Jean During, quand je vous ai écrit pour vous demander de m'accorder un entretien pour parler des traditions musicales et sonores soufis, vous m'aviez répondu en disant « c'est bien de parler de musique soufie à la radio, à condition toutefois d'échapper aux discours soufisants habituels et aux idées toutes faites ». Alors j'aimerais bien vous demander ce que c'est que qu'un discours soufisant, habituel et des idées toutes faites que vous rencontrez le plus souvent en Occident.
Bon, c'est lié à l'utilisation univoque du terme soufi pour désigner toute la grande diversité en réalité d'expressions spirituelles qu'on trouve dans le monde musulman. Parce que, alors, si vous voulez, soufi, ça connote tout de suite un engagement au sein d'une confrérie, une transmission initiatique qui doit remonter jusqu'au prophète Mohammed et au-delà jusqu'à l'archange Gabriel. Du point de vue musical, ça connote l'idée d'un rituel. Et les premières idées qui viennent à l'esprit, c'est les derviches tourneurs. Parce que c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est frappant et ce qui est aussi musicalement remarquable. Et en fait, tout ça occulte un peu tout le reste. Ces idées sont donc loin, loin, loin de rendre compte de ce qui se passe réellement. Déjà le mot soufi, c'est le seul mot qu'on utilise, hein. Mais dans la pratique et dans les différentes cultures, il y a plein d'autres mots. On dit derviche par exemple, on dit kalandar, on dit aref, on dit malingue. Et dans chaque culture, même le mot soufi, s'il existe, il peut avoir un sens différent. Par exemple, au Kurdistan, soufi, ça veut dire derviche d'obédience Naqshbandi, tandis que les autres se définissent comme des derviches, tout court. En Iran, un soufi, c'est quelqu'un de très pur, peut-être rattaché à quelque chose, peut-être pas. Mais le mot est rare.
Et au Maghreb, on utilise seulement soufi?
Au Maghreb, on dira par exemple fakir, fukara. Il y a d'autres mots. Il faut demander à chaque spécialiste. Kelami kalpten Allah de, seni divane sansınlar. Seherde zikri düp lezzet alan gelsin bu meydana. Medet ya. À côté de ça, est-ce qu'il existe une musique soufie? Est-ce qu'on peut parler d'une musique soufie? Non plus. D'abord parce qu'il y a des tas d'expressions très différentes. Quand j'ai fait entendre des enregistrements de musique spirituelle ou des musiques des derviches du Kurdistan à mon professeur il y a longtemps, il était tout à fait étonné parce qu'il s'imaginait qu'une musique mystique, ça devait être quelque chose d'un peu éthéré, d'un peu immatériel, de préférence non rythmé, non mesuré, quelque chose de céleste, alors que là, on avait des rythmes forts, bien marqués, bien appuyés, des exclamations, de l'enthousiasme, de l'excitation, de l'agitation. Je pense qu'on s'est forgé des idées sur des mythes religieux occidentaux. La musique soufie comme un reflet de l'harmonie des sphères, peut-être quelques réminiscences pythagoriciennes. Enfin, vous voyez, c'est pas ça qu'on trouve. Ça arrive, on trouve, oui. Alors, ce qui typifie vraiment ce style, c'est le ney des derviches tourneurs. Encore une fois, la chose qu'on connaît le mieux. Donc, le son du ney dans une atmosphère réverbérante de cathédrale ou de grande mosquée. Ça, c'est ce qu'on attend, ce qu'on s'attend à entendre en musique soufie. Mais ça, c'est un aspect parmi une énorme variété de formes.
Allah,
Henri, vous êtes titulaire de la chaire de la mystique musulmane à l'école des hautes études pratiques à Paris. Et en tant que chercheur qui depuis longtemps se penche sur la problématique de l'alchimie notamment, musulmane et soufie, et d'autres types de sciences occultes, j'aimerais bien vous demander d'emblée si dans votre parcours vous avez eu à rencontrer non seulement les musiques soufies, mais aussi des problématiques peut-être plus intellectuelles, plus mystiques, liées à des manifestations musicales ou sonores des soufis, où qu'ils soient, dans quelque partie du monde musulman qu'ils vivent.
J'ai eu la chance de rencontrer des groupes soufis depuis maintenant 30 ans. Donc ça a commencé en Syrie, mais j'en ai vu ailleurs, en Iran, en Égypte, et puis en Europe aussi, il en existe aussi. Et ce qui caractérise tous les rituels soufis, c'est l'usage de la voix du son, c'est-à-dire que le rituel initiatique en islam par excellence passe par le son. Vous savez qu'il n'y a pas de représentation figurée. Dieu se manifeste d'abord et avant tout par la parole et par le son, et c'est l'audition qui est le contact primordial avec le divin. Et les soufis, bon, ce sont des musulmans comme les autres, mais en plus des rituels ordinaires comme les cinq prières quotidiennes, ils se réunissent et ils ont des rituels fondés à des titres divers sur la voix. Alors il peut y avoir des rituels fondés sur des récitations de prières, mais le plus souvent, il y a passage de la récitation à la cantillation, à la psalmodie, le plus souvent aussi avec des chants et souvent également avec de la musique. Donc il y a toute une palette de liturgies possibles qui va dépouiller jusqu'au plus extatique avec des percussions comme dans certaines confréries africaines. L'important, je crois, c'est de bien saisir que c'est beaucoup plus que des techniques pour entrer dans un état second. Vu de l'extérieur, ça paraît des sortes de techniques d'auto-hypnose, d'essayer de se mettre en transe. Mais en tout cas, les maîtres soufis, ceux qui ont écrit sur ces questions d'audition spirituelle, disent que c'est justement l'attitude qu'il ne faut pas avoir, mais en écoutant le son de la parole, mettons si on écoute le Coran, ou des prières, ou des chants, ou de la musique, il faut écouter la dimension supérieure, spirituelle du son. Alors qu'est-ce que la dimension supérieure du son ? Il y a l'idée d'abord que toute la création est issue de la parole divine. Il est dit dans le Coran que Dieu a créé le monde en parlant. Il crée une chose et lui dit « sois ». Donc, c'est toute la... Enfin bon, c'est une image familière aux conceptions chrétiennes aussi, que c'est pas par le logos, c'est par le verbe que tout le monde se structure. Et il y a donc le verbe qui se produit dans le monde. Les alchimistes essaient de retrouver les articulations de cette grammaire divine, cette syntaxe divine dans les lois de la nature. Mais les soufis, eux, essaient de retrouver dans l'aspect sonore, justement, comme un écho de cette voix divine. Bien sûr, c'est plus facile avec une belle musique, mais les maîtres de l'époque classique disent un vrai soufi entend cette sonorité divine dans le vent, dans le grincement des branches, dans le cri des animaux, même dans le grincement d'une porte. Enfin, tous les sons viennent finalement comme un écho de cette parole divine primordiale.
شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
لقد صار قلبي قابلا. Mon cœur est devenu réceptacle de toutes les formes. C'est une prairie pour les gazelles et un couvent pour les moines chrétiens, un temple pour les idoles et la Kaaba du pèlerin, les tables de la Torah et les feuilles du Coran. Je professe la religion de l'amour où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion. Et ma foi. Croyance à un poème d'Ibn al-Arabi que Houria Abdelwahed a elle-même mis en mélodie et qu'elle a bien voulu me chanter lors de notre entretien. Poète, philologue, philosophe mystique, exégète du Coran et des textes sacrés de l'islam, Ibn al-Arabi est considéré par beaucoup comme la plus grande figure dans l'histoire du soufisme savant, comme celui dont l'œuvre, aussi immense que controversée, a dès le XIIe siècle nourri les enseignements les plus subtils et les plus secrets des différents courants soufis dans tout le monde musulman. Mais Ibn Arabi était-il lui-même un musicien? Avait-il lui-même une pratique d'instrument de musique? Houria Abdelwahed.
S'il jouait d'un instrument, je ne pense pas, mais il pratiquait le zikr. Ça, oui, il pratiquait le dhikr avec d'autres mystiques et avec ses disciples. Avec ses disciples, il pratiquait le dhikr. Et effectivement, dans les futsuhat, on trouve de temps en temps quelques passages sur le dhikr, sur le dhikr, sur le polissage du cœur et sur vraiment cette union mystique du fidèle avec son Seigneur.
Donc au sein de sa confrérie, il avait la fonction du cheikh.
Il était cheikh. Il était Cheikh Akbar, le maître par excellence.
لا روح اضرب العباس لا روح مشايخنا لا روح مشايخكم لا روح كل ولي ولاة من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء والأموات منا الفاتحة
اللهم صل على سيدنا محمد.
Par rapport aux différentes techniques respiratoires telles qu'elles sont utilisées dans les zikr des soufis, il m'a semblé intéressant que Houria Abdelwahed puisse nous donner ici juste un bref aperçu sur la pensée d'Ibn Arabi à propos de la langue et en particulier de l'importance et du statut du souffle, du son et de la respiration dans la création. Autrement dit, pour Ibn Arabi, dans le déploiement de l'acte du langage et de la nomination.
Ibn Arabi aussi, quand il parle de ce déploiement de l'acte de nomination et de l'acte langagier, il fait toujours appel à ce hadith, c'est-à-dire cette parole du prophète, mais c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, hadith Qudsi. J'étais un trésor caché et je n'étais pas connu, or j'ai aimé être connu. Donc j'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, j'ai créé la créature afin qu'elle ne me connaisse. Donc ce hadith-là, Ibn Arabi le met en lien avec un autre sur le lieu du Seigneur avant la création. Il dit qu'il était dans un hama, c'est-à-dire une nuée. Et bien ce hama, en fait, quand on lit attentivement Ibn Arabi, c'est le temps, ce que Francis Ponge appelle le repos. Le repos qui précède la création, c'est-à-dire toute création. Et là, Ibn Arabi lit, mais vraiment de façon très intime, le trésor caché, le hama, et puis tout ce qu'il a écrit sur l'existence du souffle et les prédispositions des lieux d'émission des sons, le makharij, qui signifie littéralement sortie, chez celui qui respire. Et il dit sans ces makharij, donc sans ces lieux d'émission des sons, les lettres ne se seraient pas manifestées. Donc effectivement, les lettres se manifestent parce qu'elles sont portées par la verticalité du souffle, mais ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a ce mouvement perpétuel, les choses ne sont pas figées. On n'est pas dans l'immobilité, on est dans un mouvement perpétuel qui fait que les formes, comme il dit, les formes épiphaniques, hein, ne viennent que pour disparaître. Et leur vie ne dépasse pas le jour, c'est-à-dire l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une transformation incessante qui n'est autre que le balbutiement permanent ou bien le ruissellement des noms. Question, quelle est la cause du commencement du monde ? Ibn Arabi répondait, mais les choses sont éternellement commençantes parce que perpétuellement détruites. Elles viennent avec le soi, le fiat créateur, et puis disparaissent parce qu'elles sont détruites par l'air. Et Edgar Poe disait, toute parole est un mouvement créé dans l'air. C'est particulier parce qu'il insiste sur cette dimension langagière, mais en même temps, il reste quand même redevable à ses prédécesseurs, aux autres mystiques, quand ils appuient sur ce sonore, ne serait-ce que dans le zikr. Hein, le zikr, une formule de la shahada, par exemple, l'attestation de foi, qui est extraordinaire. Ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu. Donc il y a ce zikr-là, et dans une formule qui se répète, il y a la voix, il y a le sonore, il y a aussi l'arrière-plan, c'est-à-dire que le mystique veille à polir son cœur jusqu'à ce que ce dernier devienne un miroir réfléchissant la splendeur divine. Et là, on retrouve quand même un thème très cher à Plotin, à savoir, il faudrait plonger dans le soi, retrouver une espèce d'intimité et s'éloigner de tout ce qui peut être de l'ordre du péché. Donc c'est ça vraiment le combat que livre le mystique afin qu'il fasse un avec son Seigneur. C'est-à-dire dépasser le moi. C'est vraiment le dépassement du moi. C'est ça la mystique.
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان.
En fait, les principaux textes sur la musique et sur les effets psychologiques et spirituels de la musique sont des textes philosophiques, comme ceux de Farabi, de Kindi ou des Frères de la Pureté, qui au Xe siècle ont écrit une sorte d'encyclopédie des sciences philosophiques et naturelles et qui expliquent alors, avec quelques détails, comment les proportions de la musique sont le reflet des proportions des astrales, des distances entre les sphères planétaires, et comment les quatre cordes du luth correspondent donc à des harmonies astrales, comment leur longueur dépend de rapport entre les planètes, et que donc la musique répercute dans le microcosme humain l'immense harmonie qui vibre dans l'entièreté de l'univers.
Rabbi.
Dans ce que vous dites, Pierre Lory, il se dégage presque de façon enchevêtrée deux aspects de la problématique. C'est d'une part l'écoute, l'audition, sur laquelle vous semblez mettre l'accent, mais aussi la production du son. Et quand on parle de production du son chez les soufis, on peut tout de suite opposer que certains ordres soufis plus orthodoxes, comme par exemple les Naqshbandi, professent la prière silencieuse, mentale, le dhikr mental, caché.
Il n'y a d'ailleurs pas que les Naqshbandi qui critiquent l'aspect musical et chanté des réunions soufis, des autres confréries soufis. Globalement, les docteurs de la loi conservateurs répudient complètement toute l'utilisation de la musique. Ils disent que le prophète Mahomet lui-même n'a jamais utilisé de musique, n'a jamais recommandé d'utiliser le chant ou la musique, et que donc ce sont des pratiques qui sont parfaitement hétérodoxes. Ce à quoi les soufis répondent que l'homme n'est pas partout le même, il n'est pas simple en lui-même, il y a plusieurs consciences en lui. C'est-à-dire qu'un homme qui est préoccupé par le plaisir charnel et qui écoute de la musique, il va écouter une musique qui développera ses passions charnelles. Mais l'homme avide de paix écoutera une musique qui développera sa paix, et un homme à la quête de l'absolu va écouter autre chose dans la musique. Et donc les soufis eux-mêmes utilisent une musique qui n'est pas du tout celle qu'on chante dans les cabarets, qu'on produit dans les cabarets. C'est une musique qui est très méditative et qui souvent est très étudiée pour amener des états de paix intérieure et non pas de transviolente. Je parle là surtout des soufis que j'ai observés au Proche-Orient et en Iran, l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire, je connais moins. Et avec cette idée qu'au fond, cette musique correspond à ce qu'on appelait dans l'Antiquité la musique des sphères. Cette musique permet d'entrer en contact avec une dimension de l'être qui est la dimension angélique, qui, dans la mystique musulmane, révèle à l'homme les dimensions les plus subtiles de son être et qui le relie à Dieu. Parce qu'après tout, que peut dire un être humain, une petite fourmi terrestre, qu'est-ce qu'elle peut, en quoi peut-elle s'unir à Dieu? Il y a un ravin immense entre le petit chercheur dans un ordre soufi et le Dieu créateur de l'univers. Mais justement, par l'exercice soufi, par la musique, on entre en contact avec ce monde angélique qui sert en quelque sorte d'intermédiaire. Il y a cette idée-là, mais qui se retrouve aussi dans la liturgie, mais dans chrétienne orientale, que dès lors que l'on chante, dès lors que l'on produit une musique un tant soit peu avec un rythme, une mélodie, on entre en contact avec le surnaturel. Enfin, on entre en contact, on devient conscient de ce contact qui en fait est permanent.
Les chemins de la musique, la musique et le soufisme. Aujourd'hui, des sons et des voix dans la quête de l'absolu. Avec Houria Abdelwahed, Jean Luring et Pierre Lory. Marie-Dominique Bougot, Perrine Mahegui, Daniel Alanguer. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 11 mars 2003 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.